Vous écoutez On lit pour vous.
Un monstre et son chromosome Y. Un texte de Patrick Lagacé paru le 22 février 2024 dans la presse. Guylaine Potvin est retrouvée morte dans son appartement de Jonquière en avril 2000. Une scène de crime, ça parle en jargon policier, et ce que l'appartement de l'étudiante disait était terrible. Elle avait été battue, agressée sexuellement et étranglée à l'aide d'une ceinture. Pendant deux décennies, le crime est resté sans coupable. La police de Jonquière n'a jamais pu arrêter un suspect. Note de la rédaction, la police de Jonquière a depuis été intégrée à la police de Saguenay et l'enquête a plus tard été transférée à la Sûreté du Québec. Pendant deux décennies, la famille de la jeune femme de 19 ans a flotté dans les limbes de l'incertitude. Qui a tué Guylaine? Je dis ça comme ça, l'incertitude, mais pour avoir parlé dans le passé à des proches de victimes de crimes non résolus, ce terme est trop doux, on est davantage dans le registre du supplice de la goutte. Être le proche d'une personne assassinée sans pouvoir mettre un visage sur le coupable, c'est vivre dans une ombre permanente, même les jours de soleil. Pendant deux décennies, il fut à craindre que le mal allait triompher. Avancez le curseur à 2022. Marc-André Grenon est arrêté à Granby. Il est accusé du meurtre de la jeune étudiante de Jonquière. On apprendra plus tard que c'est la science qui a fait une formidable passe sur la palette de la Sûreté du Québec pour faire avancer ce cold case. On l'a constaté ces dernières années, l'engouement pour la généalogie a créé une véritable industrie de l'identité familiale. Des millions de gens donnent un échantillon d'ADN au Ancestry.com et compagnie pour découvrir qui étaient leurs aïeux, d'où ils viennent et qui ils sont. Des échantillons d'ADN librement soumis constituent des bases de données formidables pour la police. En toute légalité, les enquêteurs peuvent accéder à ces millions d'échantillons d'ADN pour tenter de faire avancer des enquêtes de type cold case. Un exemple. Joseph DiAngelo, tueur et violeur en série californien, actif dans les années 1970, a été condamné grâce à la multiplication de ses bases de données mêlant généalogie et ADN en 2020. L'ADN du Golden State Killer n'était pas dans les bases de données des entreprises de généalogie, mais celui d'un cousin l'était. Cela a fait débloquer l'enquête. Plus près de nous, le meurtre de la jeune Montréalaise Sharon Pryor a été élucidé en 2023, près de 50 ans plus tard, par la police de Longueuil, grâce à ce qu'on appelle désormais la généalogie génétique judiciaire. Le premier cold case québécois résolu grâce à cette avancée. Dans le cas de Grenon, il a été trahi par son chromosome Y. Le laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, LSJML, a développé un outil carrément révolutionnaire pour, je résume simplement, jumeler le chromosome Y que seuls les hommes possèdent à certains patronymes. On peut ainsi lier des échantillons d'ADN à des noms de famille. Et c'est ainsi que l'ADN retrouvé sur la scène du meurtre de Guylaine Potvin a pu être lié par le LSJML à un probable nom de famille. Grenon. Justement, Marc-André Grenon faisait déjà partie à l'époque du crime d'une liste de suspects potentiels. Après avoir reçu l'indice Grenon des scientifiques du laboratoire de sciences judiciaires, les enquêteurs de la SQ ont déployé des trésors de créativité pour récupérer l'ADN de Marc-André Grenon, qui collait parfaitement avec l'ADN retrouvé sous les ongles de Guylaine Potvin. Bref, la preuve présentée par la couronne était béton. Tellement béton que Gredon n'a pas présenté de défense. Tellement béton que le jury a mis moins de 2 heures à le déclarer coupable mardi. Gredon n'a pas témoigné à son procès, mais à la toute dernière minute, par la bouche de ses avocates, Gredon a offert une explication complètement loufoque pour son crime. Il a admis avoir tué la jeune Potvin lors d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Les avocates Vanessa Farran et Karine Poliquin ont présenté ce scénario débile au jury sans pouffer de rire. On les félicite, ça n'a pas dû être facile vu la bêtise de l'argument. Je souligne que, devant la preuve en béton présentée par la couronne, Marc-André Gredon aurait pu avoir un sursaut d'humanité et plaider coupable avant le procès, question d'éviter à la famille et aux amis de Guylaine Potvin le traumatisme supplémentaire des descriptions et photos de la scène de crime. Il ne l'a pas fait. Après le verdict, Gredon a été invité par le juge François Huot à présenter des excuses à la famille de Guylaine Potvin. Sa réponse tenait en un mot « non ». Grâce à l'invention de cet outil du LSJML qui permet de lier de l'ADN inconnu à des noms de famille, peut-être que d'autres monstres comme Marc-André Gredon pourront être démasqués et condamnés. Gredon fait lui-même face à un autre procès pour agression sexuelle, après laquelle il aurait laissé sa victime pour morte à Québec 2 mois après le meurtre de Guylaine Potvin. Comme l'a rapporté mon collègue Vincent Larrain, qui a couvert le procès, Marc-André Gredon aura échappé à la justice pendant 8202 jours depuis le meurtre d'avril 2000. Pensez pour la famille de Guylaine Potvin. Merci aux scientifiques du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale et chapeau aux flics de la SQ qui n'ont jamais lâché. Marc-André Gredon va passer un minimum de 25 ans ou 9132 jours au pénitencier où les hommes comme lui n'ont pas très bonne réputation. Le mal ne triomphe pas toujours. C'était « Un monstre et son chromosome Y », un texte de Patrick Lagacé paru le 22 février 2024 dans La Presse.
De l'humour pour promouvoir la courtoisie, un texte de Marie Tison, paru le 17 février 2024 dans La Presse. Comment promouvoir la courtoisie entre les divers utilisateurs du plein air sans se montrer trop moralisateur? En faisant appel à de chouettes animaux et en adoptant un ton humoristique, bien sûr. C'est ce que fait le Réseau plein air Québec, RPAQ, avec sa nouvelle campagne de sensibilisation « La nature te juge ». Au cours des dernières années, il y a eu une grande augmentation de l'achalandage sur les sites de plein air, rappelle Geneviève Desilets, chargée des communications au RPAQ. Il y a plus de cohabitation entre randonneurs, mais aussi entre randonneurs et personnes qui font d'autres activités. Les comportements problématiques se sont multipliés, même si ça reste une minorité. On voulait s'assurer que les gens développent des normes sociales positives pour limiter les frictions. Mais voilà, personne n'aime se faire dire quoi faire. Comment faire passer le message sans sermonner? Après avoir discuté avec divers intervenants, dont des gestionnaires de sites et des directeurs d'organismes de plein air, le RPAQ a choisi un ton humoristique. On en est venu à la conclusion que c'est un enjeu d'éducation et que l'éducation, ça passait toujours mieux avec un message positif, un message humoristique qui ne se veut pas moralisateur. Personne ne veut se sentir jugé. Le jugement, ça passe mieux quand ça vient d'un raton laveur qui s'appelle Régent que quand ça vient d'un être humain, souligne Geneviève Desilets. Le fameux Régent, donc, est la tête d'affiche de la campagne « La nature te juge » qui se déroule fin janvier 2024, notamment sur les réseaux sociaux. Il se fait épauler par d'autres animaux, comme un harfang des neiges ou un renard, qui affiche un regard réprobateur ou simplement découragé devant des comportements peu courtois. On voit ainsi la photo d'une loutre qui semble se boucher les oreilles avec les pattes, accompagnée de ce message « Moi, quand tu imposes du Céline à tout le monde sur le lac. » Il y a aussi un cerf de Virginie pas très content avec ces mots « Moi, quand tu dépasses quelqu'un dans le sentier sans l'avertir. » Le RPAQ a orchestré la campagne avec 22 partenaires, dont des fédérations de sport de plein air, les parcs régionaux du Québec et les pourvoiries. Les sports motorisés sont de la partie avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et la Fédération québécoise des clubs quad. Les relations ne sont pas toujours au beau fixe entre les amateurs de sports motorisés et les randonneurs et les skieurs. Un rapprochement est donc le bienvenu. La campagne comprend un quiz sur les comportements à adopter. Il n'est pas très difficile, mais susceptible de provoquer le sourire. C'est ainsi qu'on demande ce qu'il faut faire si un adepte de vélo de montagne rencontre une personne à cheval dans un sentier. Ralentir? Foncer? Ou poliment demander si on peut échanger le vélo pour son cheval? D'autres questions sont plus embêtantes. Que faut-il faire lorsqu'on rencontre une autre personne en montée sur un sentier étroit? Ou lorsqu'il y a des skieurs qui sont plus bas que soi en ski de montagne? En plus de proposer ce jeu questionnaire et un petit concours, la page web de la campagne comprend un guide de courtoisie pour les différents sports, qu'ils soient motorisés ou non. Pour le ski de fond, on parle notamment du contrôle de la vitesse et de l'importance de signaler ses intentions. Dans la section sur l'escalade de glace, on aborde la question des conditions d'accès au site. Pour la motoneige et le quad, on insiste notamment sur le respect de la propriété privée. Aux chasseurs, on rappelle la nécessité de partager le territoire. Des liens dans chaque section donnent accès à des informations supplémentaires, notamment dans les sites des diverses fédérations. Le RPAQ pourra revenir sur cette campagne à l'occasion de sa participation au Salon Aventure et plein air qui se tiendra à Montréal les 23 et 24 mars prochains. Selon Geneviève Desilets, les premières réactions sont positives. Autant nos partenaires que d'autres organismes nationaux de plein air trouvent que la campagne est le fun, que le message passe facilement et que visuellement ça attire l'attention. La campagne de sensibilisation à la courtoisie sera de retour pour un volet estival avec de nouveaux animaux, de nouvelles couleurs, de nouveaux exemples, un nouveau quiz et un nouveau prix. C'était « De l'humour pour promouvoir la courtoisie », un texte de Marie Tison, paru le 17 février 2024 dans la presse.
Cimetière écologique, la forêt du dernier repos. Un texte de Frédéric Charret, paru le 6 mars 2024 dans le magazine Virage. Plantation d'arbres, protection forestière à perpétuité, recours innovant à la réalité augmentée. La forêt de la seconde vie se veut le net plus ultra des cimetières écologiques au Québec, voire en Amérique du Nord. Cette démarche ambitieuse s'inscrit dans une tendance qui vise à réduire l'empreinte environnementale de l'industrie de la mort. Il y a près de 4 ans, deux entrepreneurs en immobilier ont acquis un terrain de golf désaffecté à Sainte-Sophie, dans les Laurentides. Leur objectif? Prendre un milieu artificiel et le renaturaliser le plus rapidement possible. On cherchait aussi à permettre au plus grand nombre de Québécois de diminuer leur empreinte écologique, explique Guillaume Marcoux en compagnie de Richie Derèche, son partenaire d'affaires. Leur stratégie? Créer un cimetière dans lequel les cendres des défunts se mêleraient aux racines de milliers d'arbres, menant par le fait même à la renaissance d'une forêt. Sur le vaste site, les lots sont vendus comme des concessions dans un cimetière classique, mais il n'y a ni pierre tombale ni plaque commémorative. Les cendres sont inhumées, ou enracinées, terme privilégié à la forêt de la seconde vie, avec un jeune plant d'arbre, dans une urne biodégradable ou directement dans le sol. À terme, si tous les lots trouvent preneur, le projet permettra de planter 7000 arbres et de les protéger à perpétuité grâce à une servitude de conservation forestière. Ce sont ainsi près de 175 tonnes de carbone qui seront captées annuellement, selon les calculs des deux entrepreneurs. Une tendance écologique. Qu'il soit appelé vert, écologique ou naturel, les cimetières alternatifs poussent ici et là au Québec, comme l'explique Mélanie Huneault dans un essai de maîtrise rédigé lors de ses études à l'Université de Sherbrooke. Le premier cimetière naturel à faible impact écologique de la province, les Sentiers, a été créé en 2009 à Prévost, dans les Laurentides. D'autres ont emboîté le pas, comme le cimetière naturel en milieu urbain de la coopérative funéraire de l'Estrie et le boisé du souvenir du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, inauguré récemment sur le Mont-Royal. Chacun a ses propres spécificités, mais en général, il mise sur des pratiques qui favorisent la préservation de la biodiversité, la réduction des produits toxiques, la minimisation des monuments, le recours aux matériaux écologiques et l'aménagement du site en harmonie avec la nature. Le tout offert à des prix comparables à ceux de l'ensemble du marché. Selon France Denis, directrice des communications à la Fédération des coopératives funéraires du Québec, il y a un intérêt croissant pour des pratiques plus écologiques, bien qu'on ne puisse pas encore parler de vagues. Tout le monde est pour l'environnement. On reçoit beaucoup de questions. Mais quand vient le temps de choisir, les gens optent encore souvent pour quelque chose de plus traditionnel. N'empêche, la conscientisation fait son chemin. Le fait qu'il y ait des cimetières écologiques parle de quand même beaucoup, souligne-t-elle, ajoutant qu'il est important de s'assurer que des options durables sont offertes à ceux et celles qui le désirent. Les arbres sous le nuage numérique. Richie Derèche et Guillaume Marcoux estiment que leur projet cultive comme nul autre le concept du cimetière écologique, soulignant qu'il est le seul ayant été accrédité comme producteur forestier en Amérique du Nord. Les entrepreneurs ont d'ailleurs sollicité l'appui d'un organisme à but non lucratif spécialisé dans le développement durable pour créer le plan d'aménagement. Ces ingénieurs ont élaboré un concept de 5 zones forestières, chacune ayant une thématique et 5 essences d'arbres qui lui sont propres. Et pour diminuer au maximum l'impact environnemental, les deux partenaires ont choisi de proscrire les panneaux signalétiques et les objets commémoratifs. Pour trouver l'arbre sous lequel repose l'être cher, le visiteur doit utiliser une application interactive basée sur la réalité augmentée. L'outil permet aussi d'accéder à un coffre virtuel contenant une banque de souvenirs de la personne qui y repose. S'enraciner ailleurs au Québec. selon les projections démographiques, le Québec franchira le cap des 100 000 décès par année en 2043. Ajoutons à cela la crise climatique et il y a fort à parier que la demande pour des cimetières écologiques n'ira qu'en augmentant. D'autant plus que les gens sont actuellement en quête de sens, particulièrement lorsqu'il est question de la mort et du deuil, ajoutent Richie Derèche et Guillaume Marcoux. Selon eux, le don de soi à la terre, la communion avec la nature et le legs laissé aux générations futures peuvent aider à combler ce vide. Dans ce contexte, les entrepreneurs travaillent déjà afin que leur concept puisse prendre racine dans plusieurs autres régions de la province. La mort écologique. Les rites funéraires laissent une empreinte environnementale indéniable, mais il existe plusieurs options écologiques que vous pouvez choisir au moment de célébrer la vie de vos proches disparus ou de planifier vos propres funérailles. Les produits toxiques utilisés lors de l'embaumement se dispersent dans la nature, contaminant notamment le sol et les eaux souterraines. Pour contourner cet enjeu, vous pouvez tout simplement dire non à l'embaumement. La période d'exposition de la dépouille sera restreinte, mais ce choix vous permettra aussi de réduire la facture. L'inhumation a aussi un impact sur l'environnement. D'une part, la fabrication du cercueil, en plus de sa décomposition et celle du corps, engendre une production de CO2. D'autre part, des contaminants présents dans la dépouille, mercure, plomb, se répandent dans le sol. Vous pouvez limiter cela en choisissant un cercueil fabriqué à partir de matériaux durables, bois, bambou, carton, etc., sans métal ni plastique, ainsi qu'une doublure biodégradable. Les prix sont comparables à ceux des cercueils habituels. Lors de la crémation, la combustion du corps et du gaz naturel libérerait jusqu'à 730 kg de CO2, selon une étude commandée par la FCFQ. Certaines maisons funéraires ont donc investi pour améliorer l'efficacité énergétique de leurs fours crématoires. D'autres plantent des arbres pour compenser leurs émissions, par l'entremise du programme Héritage du réseau des coopératives funéraires du Québec, par exemple. Informez-vous avant de faire votre choix. Vous pouvez aussi choisir l'aquamation. Ce processus combine chaleur et alcalinité à une eau en mouvement pour dissoudre les tissus. Les eaux sont ensuite séchées et réduites en poudre. Il n'y a pas de combustion et pratiquement aucune émission de CO2. Au Québec, seul le complexe funéraire Le Sieur à Granby offre cette option, mais couvre l'ensemble du territoire. Pour inhumer les cendres, vous pouvez choisir une urne écologique fabriquée localement. Biodégradable, biologique, compostable, botanique, le choix est vaste. C'était Cimetière écologique, la forêt du dernier repos. Un texte de Frédéric Charret paru le 6 mars 2024 dans le magazine Virage.
Les œufs crus sont-ils dangereux? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 28 janvier 2024 dans la presse. Question de Monique Chagnon. Est-ce qu'on peut attraper la salmonellose en mangeant de la mayonnaise faite avec un œuf cru? Réponse de la presse. Pas au Québec, mais les personnes vulnérables, comme les bébés et les femmes enceintes, devraient quand même s'abstenir de manger des œufs crus. Et tout le monde devrait faire attention aux œufs fermiers. On a un système de surveillance des élevages très efficace, explique Alexandre Thibodeau, microbiologiste à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Mais les élevages artisanaux, comme votre voisin au chalet qui a quelques poules, peuvent aussi avoir de la salmonellose. Alors, il vaut mieux cuire les œufs de cette provenance. Le système de surveillance fonctionne ainsi. des plumes de poulet sont prélevées à différents endroits d'un élevage. S'il y a une trace de la bactérie salmonelle, qui cause la salmonellose, tous les oiseaux sont sacrifiés. Ça n'arrive jamais au Québec parce que les oiseaux sont vaccinés contre la salmonelle, dit M. Thibodeau. Si le risque est nul, pourquoi les œufs crus, dans une mayonnaise, un tartare ou de la pâte à gâteau non cuite, par exemple, sont-ils déconseillés aux bébés, jeunes enfants, femmes enceintes et personnes âgées? Le danger est minime. Mais si jamais ces personnes tombent infectées, les conséquences sont très graves, dit M. Thibodeau. Alors il vaut mieux appliquer des mesures strictes. La salmonellose a des symptômes semblables à une gastro-entérite et peut causer la mort dans moins de 0,1% des cas, selon Santé Canada. Lavage. Pourquoi dans certains pays comme la France, les œufs sont-ils conservés à l'extérieur des frigos? Les œufs commerciaux sont brossés, lavés et désinfectés au Québec et au Canada, dit M. Thibodeau. Donc, leur surface est propre et virtuellement sans pathogène. Mais ils ont perdu leur cuticule, une membrane qui recouvre les pores de la coquille pour empêcher les bactéries d'y entrer. Cela va faire en sorte que les œufs vont expirer vraiment plus rapidement si jamais il y avait trace de pathogène sur la coquille. En France, les œufs ne sont pas lavés. Donc, il peut y avoir des pathogènes sur la coquille des œufs, dit M. Thibodeau. Il faut donc traiter les œufs qui ne sont pas lavés et désinfectés en surface, comme n'importe quelle pièce de viande, et faire attention à la contamination croisée. Laver les œufs fermiers peut-il être dangereux? Le fait de laver nous-mêmes peut créer des éclaboussures qui font en sorte que la salmonella ou d'autres pathogènes sur la coquille peuvent se retrouver dans notre visage ou sur nos mains et ensuite nous infecter, dit M. Thibodeau. Si on utilise un désinfectant et que l'on fait attention à ne pas immerger l'œuf dans l'eau et que l'on sèche la surface extérieure de l'œuf après l'avoir lavé, selon moi, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut à ce moment-là conserver les œufs au frigo. C'était « Les œufs crus sont-ils dangereux ?» un texte de Mathieu Perrault, paru le 28 janvier 2024 dans la presse.